Mais avant, j'aimerais prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps d'écoute de ta parole. Inspire notre cœur, notre entendement, que nous puissions non seulement recevoir avec notre intelligence, mais aussi pouvoir pratiquer cette parole dans notre vie quotidienne. Nous te remettons ce moment. Nous te remettons ce moment entre tes mains, que tu puisses inspirer par ton Esprit Saint pour nous toucher, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Trop bien ou il faudrait peut-être baisser un tout petit peu? Non? Oui? Oui, c'est bon? Ok. Il n'y a pas de résonance là, maintenant. Alors, je disais que le verset que j'ai choisi ce matin, c'est dans Matthieu, chapitre 15, verset 14. C'est un verset assez célèbre. « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Voilà, c'est un message qui est assez clair. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous, mais en tout cas, il me semble que c'est assez clair. Oui, un aveugle ne peut pas diriger un autre aveugle, c'est ça. Et en parlant de cette parabole, Jésus ne parle pas à un vrai aveugle, en fait. Il cible quelqu'un. Ce sont des religieux de l'époque. Ce sont des pharisiens, ce sont des chefs religieux, ce sont des docteurs de la loi. Donc, il les qualifie d'aveugles, non pas physiquement, mais spirituellement. Parce qu'à l'époque, leur cœur était fermé à la vérité. Et pourtant, ils se présentaient comme les guides du peuple. Et Jésus lance vraiment ici un avertissement clair. On ne peut pas guider les autres si on est soi-même dans l'erreur. Alors vous vous dites, mais ça c'est les chefs religieux, il n'y a plus de chefs religieux. Vous savez, hein, nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous des sacrificateurs, des grands sacrificateurs. Et par le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes devenus vraiment des enfants de Dieu. Et je pense que ça nous concerne tous. Est-ce que tu peux baisser un petit peu parce que ça résonne un peu? Voilà. Hein? Un, deux. Ça résonne encore un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que l'aveuglement spirituel? L'aveuglement spirituel, on pourrait comprendre tout d'abord en pensant les non-chrétiens. On pourrait peut-être dire que c'est le refus de reconnaître la vérité. L'aveuglement commence souvent par un rejet de Dieu. Rejet de, surtout de Jésus-Christ comme la vérité. Paul d'ailleurs nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 4, « Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. » Je vous relis encore une fois. Le Dieu de ce siècle, donc là on parle de Satan, qui a aussi, ou des forces spirituelles, qui dominent le monde actuel. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ. Paul explique ici que l'incrédulité n'est pas simplement une question d'ignorance, mais ça résulte aussi d'une influence spirituelle qui empêche de percevoir la vérité. Et c'est comme ça que, justement, les non-chrétiens n'arrivent pas à voir cette vérité. Parfois même, on a beau à prêcher, on a beau à évangéliser, mais à cause de ce Dieu de ce siècle qui a une grande influence pour sur chacun d'entre nous, sur chacun des gens qui sont ici, enfin, dans ce monde, qu'ils n'arrivent pas à voir cette gloire de manifester en Jésus-Christ. On pourrait cela vous dire comme aveuglement spirituel. Mais aussi, on pourrait aussi voir auprès des chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui, malgré leur identité chrétienne, ils refusent d'écouter la voix du Saint-Esprit. L'aveuglement spirituel se manifeste vraiment, oui, par une sourdité volontaire à la voix de Dieu. Pourtant, le Saint-Esprit nous parle, nous avertit, nous guide même, mais parfois, des gens ferment leur cœur. Ils préfèrent aller dans le monde ou réfléchir dans le monde et ils ne l'entendent pas. Ils n'entendent pas cette voix du Saint-Esprit. Pourtant, peut-être c'est à cause de cette vérité-là que lorsque Jésus a prêché à son époque devant tout le peuple, il disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ceux qui ont les capacités d'entendre, entendent. Oui, il y a un cœur aveugle devient sourd. Et le peuple d'Israël, on pourrait peut-être imaginer le peuple d'Israël dans le désert, qui, justement, ont vu des manifestations de Dieu, qui ont vu des miracles, qui ont été nourris quotidiennement par le Seigneur, mais malgré tous ces miracles, malgré cette colonne de feu et de nuée qu'ils voyaient tous les jours, leur cœur souvent restait fermé. Même ils murmuraient, ils doutaient de la grâce de Dieu. Pourtant, Dieu était présent. Oui, c'est ça aussi, être aveugle spirituel. Peut-être on pourrait aussi voir l'aveuglement spirituel comme étant attaché aux traditions humaines plutôt qu'à la parole. Souvent, on se dit, nous, on vient à l'église, donc on est sauvés. Ou encore, je suis né dans une église, j'ai été baptisé, donc je suis sauvé. Et on pense que, à cause de ces rites religieux qu'on a pu faire, on est sauvé complètement. Jésus reproche justement aux chefs religieux que vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. On peut avoir des bonnes traditions, mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Parfois, ces traditions peuvent nous aveugler. Oui, l'aveuglement, c'est croire que l'on est dans la lumière alors que notre cœur est loin de Dieu. Être aveugle spirituellement, c'est aussi avoir un cœur endurci et insensible. Un cœur dur ne veut pas se laisser toucher. Et l'orgueil empêche de reconnaître ses fautes ou ses besoins spirituels. J'aimerais vous lire dans Matthieu 13, verset 15, où il est dit « Car ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, n'entendent de leurs oreilles, etc. » Il y a vraiment une volonté personnelle de ne pas écouter, d'avoir un cœur endurci, insensible. Et ainsi, on perd toute capacité de repentance devant le Seigneur. En résumé, l'aveuglement spirituel n'est pas un simple manque de connaissances, parce qu'on a des moyens d'information pour entendre la vérité, mais c'est un refus intérieur de voir et de se soumettre à la lumière de Dieu. Cet aveuglement peut toucher n'importe qui, non seulement les non-chrétiens, mais aussi les chrétiens, et même les responsables de l'Église, même le pasteur. Ici, les religieux étaient considérés comme les pasteurs d'aujourd'hui, mais ils étaient considérés comme des aveugles spirituels. Vraiment, il faudrait que nous nous humilions davantage devant le Seigneur. Alors, quelles sont les conséquences et et l'importance de toutes ces choses. Et puis, nous allons voir aussi l'importance de la vigilance. Peut-être je pourrais aussi vous donner l'exemple des 10 vierges. Vous savez, si nous regardons dans le même livre des Matthieu, au chapitre 25, nous voyons la parabole des 10 vierges qui attend justement le marié pour entrer dans le festin, pour entrer à la fête des festins. Et donc il y avait 10 vierges qui attendaient le marié pour être invité dans cette fête. Et puis il y avait les 5 sages qui avaient prévu de l'huile supplémentaire pour leur lampe parce que le marié tardait. Et les folles, entre guillemets, non préparées, ont manqué l'arrivée de l'époux, car ils n'avaient pas justement préparé de l'huile. Elles ne s'attendaient pas que justement l'époux allait s'attarder. Ici, les 10 vierges attendaient l'époux. Je pourrais dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui attendent encore l'époux, qui attendent. Nous avons lu tout à l'heure que Jésus revient un jour. Il a déjà accompli tout. Tout est accompli sur la croix et maintenant il reviendra. Nous avons cette espérance que Jésus revient. Nous sommes comme ces 10 vierges qui attendent le Christ qui reviendra un jour. Mais nous voyons bien que là, il n'est pas question des non-chrétiens. Les 10 vierges sont des chrétiens qui attendent, qui ont cette espérance. Mais il n'y a que 5 qui ont été préparés, qui ont pu entrer dans cette fête des festins. Les vierges, oui, représentent les croyants qui attendent le retour du Jésus. Et les lampes symbolisent la foi. Nous avons la foi. Mais l'huile représente la préparation spirituelle, la relation personnelle avec Dieu. Peut-être par la prière, par la lecture de la parole de Dieu ou par la guidance de Saint-Esprit. La leçon est claire à travers cet exemple des 10 vierges. Il ne suffit pas d'attendre juste comme ça. Mais la foi seule, bien sûr, est suffisante. Mais c'est quoi la foi seule? Il faut une préparation spirituelle en plus de cette foi personnelle en attendant le retour du Christ. Je reviens encore à la parole d'aujourd'hui dans Matthieu 15, verset 14, où Jésus utilise une image vraiment forte, celle de 2 aveugles qui marchent ensemble jusqu'à tomber dans une fosse. Et ici, il nous rappelle que, tout d'abord, Jésus rappelle à travers cette histoire que chacun est responsable. Chacun est responsable de sa propre marche spirituelle. Dans une époque où beaucoup dépend des leaders religieux pour voir à leur place, Jésus ici insiste sur le fait que nous ne pouvons pas déléguer notre relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que mon mari, ou mes parents, ou mes enfants suivent le Seigneur que je suis le Seigneur. Philippiens 2 nous rappelle, nous exhorte à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est pas juste, j'ai eu un moment super fun avec le Seigneur, j'ai expérimenté même la présence de Dieu, donc c'est bon quoi. Non. Philippiens nous dit, nous exhorte à travailler à notre salut, à travailler. C'est pas juste, c'est pas un acquis, c'est à travailler notre salut avec crainte et tremblement. Et dans 1 Jean 4, verset 1, Jean nous exhorte en disant, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Et dans cette parabole, Dieu aussi nous invite vraiment aussi à avoir un discernement. Il faut savoir reconnaître la voix du bon berger. Il faut aussi voir si la personne porte les fruits de l'Esprit de Dieu. Vous savez, dans un an, nous allons avoir un nouveau pasteur. Et il est aussi important de se préparer, que l'Église se prépare pour aussi avoir un bon leader, un leader qui est ouvert spirituellement, qui voit, qui entend la voix du Seigneur, qui suit la voix du Seigneur. Et pour cela, nous avons déjà ici maintenant de prier pour que le Seigneur nous envoie le bon berger, le bon berger. Comme ici il est dit dans cette parabole, quand un aveugle guide un autre aveugle, la chute est inévitable. Et cet avertissement de Dieu nous appelle vraiment à la vigilance personnelle, à l'intégrité de ceux qui enseignent aussi, donc là, moi aussi y compris dedans, et aussi au discernement de ceux qui le suivent. Dans Jérémie 5, verset 31, Jérémie dénonce ainsi. « Les prophètes prophétisent le mensonge. Les prêtres dominent par leurs mains et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin ?» Jérémie prêche la vérité, les malheurs qui vont tomber sur le peuple. Jérémie parle cette danger imminente. Pourtant, les gens ne veulent pas écouter. Ils écoutent, ils préfèrent écouter les prophètes qui prophétisent des nouvelles bienveillantes. Ils leur disent, mais non, nous ne serons jamais capturés. Mais non, il y aura de l'abondance. Nous serons en sécurité. Nous serons dans les mains de Dieu. Vous savez, ils mélangent la parole de Dieu, mais en apportant le mensonge. Nous devons avoir ce discernement pour entendre, pour voir les faux enseignants. Oui, de nos jours, il y a tellement de fake news, c'est vrai, même si nous ne sommes pas chrétiens, les choses du monde, nous avons besoin de ce discernement, mais aussi côté spirituel. Nous avons aussi besoin de ce don de discernement pour voir les dangers des faux enseignants, pour voir qui sont les aveugles. Aujourd'hui encore, certains prêchent un évangile sans repentance, sans croix, sans sainteté. D'autres enseignent ce qui plaît aux oreilles, mais pas ce qui transforme le cœur. Du coup, voilà, quand un aveugle guide un autre aveugle, la chute est, comme je disais, inévitable. Et donc ce verset est un avertissement qui appelle à la vigilance personnelle, à l'intégrité de ceux qui enseignent, mais aussi au discernement de ceux qui suivent. J'aimerais vous dire quand même que ce ne sont pas nous, les responsables de l'Église, qui sont les leaders qui guident les autres personnes. Nous sommes tous des leaders. Nous sommes tous enfants de Dieu qui ont cette redevance les uns des autres pour pouvoir emmener. Bien sûr, notre seul vrai guide véritable, c'est Jésus, notre lumière, la lumière du monde. Ainsi, j'aimerais vous partager aussi ce verset dans Matthieu 5, verset 14, où il est dit que « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Ne peut être cachée. J'aime bien cet exemple avec le soleil et la lune. Vous savez, la lune reflète la lumière qu'elle reçoit du soleil. Le soleil dégage cette lumière. Le soleil, c'est un peu comme Jésus qui dégage cette lumière. Et nous, c'est comme la lune qui reçoit cette lumière. Nous pouvons réfléchir cette lumière lorsque nous recevons cette lumière. Ça veut dire que, si il est dit, vous êtes la lumière du monde, puisque nous avons déjà reçu cette lumière, nous avons aussi le devoir de réfléchir cette lumière aux autres. Que nous puissions vraiment guider même les autres vers le Seigneur à travers ce réfléchissement. Non, c'est ça, ça se dit? Réflexion. Philippiens 2,15 nous encourage, « Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Oui, la lumière révèle, rassure et guide vers une destination sûre. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que lumière du Seigneur, voilà, que nous puissions aussi réfléchir cette lumière aux autres. Et sachez aussi qu'il est dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'est pas dit, efforcez-vous de devenir la lumière du monde. C'est notre identité, vous êtes la lumière du monde. Cette lumière n'est pas le résultat de notre intelligence ou notre perfection, mais le résultat direct de notre relation avec le Christ. Et vraiment, efforçons-nous en tout cas à entretenir cette relation intime avec le Seigneur. Oui, la lumière dépend de notre connexion. Dans Jean 15, 5, il est dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Oui, sans le Seigneur, sans le soleil, la lune ne peut pas réfléchir, la lumière. Cela vraiment implique une communion constante avec le Seigneur dans la prière, une méditation régulière de la parole et une obéissance joyeuse et progressive à ses instructions. Que le Seigneur nous bénisse, que nous puissions vraiment être vigilants dans tout ce que nous faisons pour pouvoir le suivre. J'aimerais peut-être terminer par cet exemple, cet exemple. Il faut suivre le bon leader, n'est-ce pas? Pas un aveugle, un bon leader. Et bien sûr que c'est Jésus-Christ par excellence. Vous savez, c'est pas à l'époque, mais j'aime beaucoup skier. Hein, j'ai déjà raconté cela. Hein, je skiais, quand j'étais à Mulhouse, je skiais une fois par semaine, tous les lundis, quand j'avais le temps, enfin quand c'était mon jour de congé. Imaginez, lundi, il n'y a personne en fait, il n'y a que des retraités qui skient. Donc voilà, le terrain était super et moi je skiais tout seul. Et moi je ne progressais pas trop. Et puis un jour, un monsieur, quelqu'un de l'église qui a à peu près 70 ans à l'époque, me disait, écoute, tu skies, on pourrait skier ensemble. Il était retraité, il avait du temps. Et je disais, moi je skie, ouais, j'aime bien skier. Et on va skier ensemble. Et puis, c'est lui qui m'a vraiment appris à skier correctement. Et en fait, il était moniteur de ski. Donc là, je pouvais vraiment progresser, partout. Et même traverser les forêts, tout ça, hors-piste, faire des hors-pistes aussi avec lui. C'était vraiment agréable. Parce qu'il était un moniteur, il était un professionnel. Enfin, professionnel, oui, entre guillemets. Quand nous suivons quelqu'un de compétent, on devient un peu comme ça. On devrait justement suivre Jésus-Christ, notre guide par excellence. Et ainsi, on pourrait le ressembler davantage. On pourrait apprendre de lui beaucoup de choses bonnes. Oui, le monde a besoin de vrais guides, des personnes éclairées par Dieu. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une foi superficielle ou d'un héritage religieux. Il faut chercher la lumière de Dieu pour nous-mêmes afin de ne pas tomber et de ne pas entraîner d'autres dans la chute. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Ne nous laisse pas dans l'aveuglement. Aide-nous à marcher dans ta lumière et à discerner ta vérité, à guider les autres aussi selon ta volonté. Oui, Seigneur, nous refusons d'être aveugles et nous voulons choisir maintenant de marcher avec toi. dans cette démarche, oui, nous avons besoin de toi, de ta présence, de ton Esprit Saint. Entoure-nous par ta lumière. Cette lumière tellement puissante que nous puissions, oui, recevoir de cela. Et pour cela, Seigneur, oui, la relation intime avec toi est nécessaire. Qu'on puisse vraiment cultiver davantage cette relation intime afin de devenir plus brillant dans ce monde qui a besoin justement de la lumière qui vient de ta part. Utilise-nous comme des outils pour briller dans ce monde aussi, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, pour faire propager ta vérité. Merci, Seigneur, pour ta présence et aide-nous encore dans cette semaine à être victorieux dans tout ce que nous allons entreprendre. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen.